Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Le génocide voilé, enquête historique » de Tidiane Ndiaye est un essai historique centré sur la traite des Noirs d'Afrique par le monde arabo-musulman et sur la manière dont cette histoire a été longtemps marginalisée dans l'espace public. L'ouvrage se situe à la frontière de l'enquête historique, de l'anthropologie et de l'essai polémique. Son objectif est de reconstituer une réalité souvent absente des récits dominants sur l'esclavage. En soulignant la durée, l'ampleur et les formes de violence associées à cette traite, l'auteur insiste sur la castration, la razzia, la déportation et la destruction sociale comme éléments structurants de ce système. Le livre cherche aussi à interroger les raisons du silence qui entoure ce passé et à replacer cette question dans l'histoire longue des rapports entre Afrique, monde arabe et islam. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une histoire de l'esclavage noir centrée sur la traite arabo-musulmane. Le cœur du livre consiste à déplacer le regard habituellement porté sur l'esclavage africain. Tidiane Ndiaye ne traite pas seulement l'esclavage comme une institution générale, mais comme un phénomène historique multiforme dont la traite arabo-musulmane constitue, selon lui, une dimension majeure et trop peu étudiée. Il présente cette traite comme un système ancien, étendu sur plusieurs siècles, qui a impliqué des captures massives de populations noires africaines à destination du Maghreb, du Proche-Orient et d'autres espaces islamisés. Cette focalisation donne au livre sa singularité. Il ne cherche pas à nier d'autres traites, mais à montrer qu'une part essentielle de l'histoire africaine est restée hors champ dans les mémoires scolaires et politiques. En cela, l'ouvrage agit comme une correction historiographique. Il oblige à penser l'esclavage africain non comme une simple annexe de la traite atlantique, mais comme un ensemble de circuits distincts avec leur propre logique économique, religieuse et politique. Deuxièmement, la violence de la capture, de la castration et de la déshumanisation. L'analyse insiste sur la brutalité spécifique des modalités de mise en esclavage. Le livre accorde une place centrale à la razzia, c'est-à-dire à la chasse aux hommes et aux femmes dans les régions africaines, puis à la déportation vers les marchés esclavagistes. L'auteur met aussi en avant la castration des hommes et la mortalité élevée liée aux déplacements, aux mutilations et aux conditions de transport. Cette insistance, elle n'est pas seulement descriptive, elle sert à expliquer pourquoi cette traite a laissé moins de descendants visibles et pourquoi elle a été moins présente dans la mémoire collective. La castration de masse, en particulier, est présentée comme un mécanisme de destruction démographique et sociale qui empêchait la reproduction des victimes et visait à fabriquer des serviteurs, des eunuques ou des travailleurs sans lignée. Le livre suggère ainsi que la logique esclavagiste ne se limitait pas à exploiter une force de travail, mais visait aussi à neutraliser durablement des groupes échoumains entiers. C'est cette dimension d'anéantissement partiel qui donne au terme de génocide son poids dans le titre. Troisièmement, le rôle des justifications religieuses et des représentations des Noirs. Un autre axe essentiel du livre est l'examen des justifications idéologiques mobilisées pour légitimer la traite. Tidiane Ndiaye évoque des lectures religieuses et des constructions culturelles qui ont contribué à naturaliser l'infériorité des Noirs. Il accorde notamment une place à la malédiction de Cham, utilisée dans certains discours savants pour associer la noirceur de peau à une condition servile. Cette idée sert dans l'ouvrage à montrer que l'esclavage n'a pas été seulement un fait économique, mais aussi un ordre symbolique nourri par des représentations de race et de religion. L'intérêt de cette partie tient au fait qu'elle relie l'histoire de l'esclavage à celle du langage, des croyances et des légitimations morales. Le livre montre comment un système de domination dure plus longtemps lorsqu'il se présente comme légitime, naturel ou conforme à un ordre religieux. En soulignant ce point, l'auteur veut expliquer pourquoi la traite arabo-musulmane a pu s'inscrire dans la durée et être acceptée par des sociétés entières sans provoquer de rupture interne comparable, celle qui a fini par délégitimer la traite atlantique en Occident. Quatrièmement, une enquête sur l'occultation historique et la concurrence des mémoires. Le livre ne se contente pas de raconter une traite négrière. Il interroge aussi les conditions de son oubli. L'un de ses enjeux majeurs est de comprendre pourquoi la traite transsaharienne et orientale a été moins enseignée, moins débattue et moins commémorée que la traite atlantique. Tidiane Ndiaye insiste sur le poids des solidarités religieuses, des silences diplomatiques et d'une hiérarchie internationale des souffrances qui a longtemps laissé de côté les victimes africaines du monde arabo-musulman. Ce point est important parce qu'il fait du livre une intervention dans la politique des mémoires, autant qu'une enquête historique. L'auteur critique l'idée selon laquelle certaines violences seraient plus visibles ou plus dignes de reconnaissance que d'autres. Il cherche à rééquilibrer un paysage mémoriel dominé par l'histoire atlantique de l'esclavage. Cette démarche explique aussi le ton souvent combatif de l'ouvrage. Il ne s'agit pas d'établir une comparaison pour relativiser, mais de rendre lisible un passé enfoui. L'enquête prend ainsi une dimension civique en appelant à reconnaître toutes les formes d'esclavage comme des crimes historiques majeurs. En dernier lieu, un essai de controverse historique fondé sur une documentation dense mais discutée, le livre se distingue enfin par sa forme C, est un essai argumentatif très documenté, mais souvent jugé dense, répétitif et polémique. Cette écriture reflète la volonté de convaincre un large public de l'existence d'un angle mort historique. L'ouvrage s'appuie sur des sources historiques, des références anthropologiques et des exemples dispersés dans le temps et l'espace, ce qui lui donne une grande ambition de synthèse. Mais cette méthode appelle aussi des réserves, car elle privilégie parfois l'accumulation de faits et des exemples au détriment d'une démonstration académique strictement linéaire. C'est précisément ce mélange qui fait sa place dans le paysage éditorial. Il ne s'agit ni d'un manuel universitaire classique, ni d'un simple pamphlet, mais d'un essai de rupture destiné à ouvrir le débat. Pour le lecteur, cela signifie qu'il faut le lire comme une proposition forte, à confronter à d'autres travaux sur l'esclavage, l'Afrique et le monde islamique. Sa valeur tient autant à l'information qu'il rassemble qu'à la question qu'il impose: que devient l'histoire mondiale de l'esclavage quand on cesse de la réduire à un seul axe, c'est la mémorielle. En conclusion, le génocide voilé enquête historique s'adresse d'abord aux lecteurs intéressés par l'histoire de l'esclavage, l'Afrique, l'anthropologie historique et les débats sur les mémoires coloniales et postcoloniales. Il sera particulièrement utile à ceux qui veulent comprendre pourquoi la traite arabo-musulmane reste moins connue que la traite atlantique et comment un silence durable peut façonner la perception d'un passé collectif. Le livre apporte un bénéfice intellectuel clair, il oblige à élargir le cadre d'analyse de l'esclavage en Afrique et à comparer des systèmes historiques distincts sans le confondre. Son apport principal est de replacer la traite transsaharienne et orientale au centre d'une réflexion globale sur la déshumanisation, la castration, les razzias et les justifications religieuses. Par rapport à d'autres ouvrages du même champ, il se distingue par son positionnement frontal, sa volonté de briser un tabou et son ambition de faire entrer un sujet marginalisé dans le débat public. Même si sa tonalité est parfois accusatrice et sa construction plus essayistique qu'universitaire, c'est précisément ce parti pris qui lui donne sa force. Il ne cherche pas seulement à informer, mais à réorienter la mémoire historique. Si vous souhaitez soutenir Tidiane N039, Diaï, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.